en séance. Une retransmission proposée par Canal Academy.
Mireille Delmas-Marty, élue le 27 mai 2007 à l'Académie des sciences morales et politiques, dans la section morale et sociologie, a fait l'éloge de son prédécesseur, l'académicien Jean Cazeneuve, décédé le 4 octobre 2005. Canal Academy vous propose d'écouter Mireille Delmas-Marty lire sa notice sur les travaux et la vie de Jean Cazeneuve en grande salle des séances, devant ses confrères et de nombreux invités. Tel est l'usage à l'Académie des sciences morales et politiques. Retrouvons Mireille Delmas-Marty le 20 octobre 2008.
Monsieur le Président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, chers confrères, chers consorts, mesdames et messieurs, c'est un honneur et aussi un véritable bonheur de tenter de faire revivre devant vous un homme qui a tant aimé la vie. Tout au long de sa longue existence, du 17 mai 1905 au 4 octobre 2005, Jean Cazeneuve a su en effet cueillir les roses de la vie, pour reprendre le titre de l'un de ses derniers livres, qu'il empruntait à un célèbre poème de Ronsard, afin de suggérer, disait-il, à contre-courant de la sinistrose actuelle, tout un jeu de variations sur la joie et le bonheur. Après une première enfance heureuse dans sa ville natale d'Ussel, puis à Toulouse, l'histoire avait pourtant failli mal tourner au début de ses années de lycée. Brillant en mathématiques, le jeune élève de 5e frôlait, dit-il, la nullité en français et en latin. Et comme il se plaît à le rappeler lorsqu'il évoque, dans les hasards d'une vie, les expériences qui ont pu orienter et parfois faire bifurquer son action, son professeur avait alors accueilli sa mère par ses propos péremptoires et, convenons-en, fort peu académiques. « Votre fils, madame, il n'a jamais rien foutu, il ne fout rien, il ne foutra jamais rien. » Pour démentir une prophétie aussi radicale, il fallait, ce sont ses propres termes, une sorte d'électrochoc qui survint de façon providentielle lorsque son père, qui était ingénieur dans les chemins de fer, accepta de quitter la métropole pour prendre au Maroc la direction des chemins de fer de Tanger à Fès. Enchanté par la perspective d'un tel changement d'horizon, le jeune homme de 15 ans devait rapidement prendre la tête de sa classe. Décidant toutefois de bifurquer de façon quelque peu imprévue des mathématiques, qui était resté son point fort, vers la philosophie, à laquelle pourtant rien ne semblait le destiner. Or, il se révéla si brillant en classe terminale que son professeur l'incita à préparer l'école normale supérieure de la rue d'Ulm, où il fit effectivement son entrée en octobre 1937. La date n'est pas indifférente. Octobre 1937, moins de 2 ans avant la signature en août 1939 du pacte germano-soviétique qui levait, on le sait, les derniers doutes sur l'imminence de la guerre. Après 6 ou 7 mois passés à Saint-Mexant pour parfaire son instruction militaire comme normalien aspirant, c'était la formule, il fut affecté au dépôt d'infanterie d'Amiens en attendant d'être envoyé dans un régiment. Fait prisonnier lors de la foudroyante avancée de la Wehrmacht, il va connaître longuement la vie des camps, jusqu'à son évasion réussie, après avoir, il le raconte, traversé sur la glace les étangs de Prusse orientale, à mesure que l'armée allemande reculait devant les divisions soviétiques. Caché dans une cave, Jean Cazeneuve sera finalement libéré par l'arrivée des troupes russes, parvenant au passage rappelle-t-il, à apprendre des rudiments de la langue de Tolstoï avant d'être rapatrié. Il sera rapatrié par un avion militaire en mai 1945. Eh bien, le moment était alors venu, après une licence de philosophie et un diplôme d'ethnologie, de préparer et de réussir l'agrégation de philosophie, puis d'être admis, magnifique privilège, comme pensionnaire à la Fondation Thiers. Débarbelé à Thélème, c'est ainsi qu'il résume ces quelques années qui détermineront, avec le choix de son sujet de thèse, une partie de ses engagements ultérieurs. Il faut avoir connu la faim, le froid, la détresse, pour apprécier le plaisir de vivre, écrira-t-il quelques années plus tard. Il était alors très tenté par une réflexion sur la nature humaine, une réflexion qui le hantera, me semble-t-il, toute sa vie, mais il fut sagement orienté par le doyen de la Sorbonne, Georges Davy, vers une recherche un peu moins théorique sur les rites religieux et magiques. Les rites auxquels s'intéressaient des sociologues aussi prestigieux qu'Émile Durkheim, Marcel Mauss ou Lucien Lévy-Brull. Au sortir de la Fondation Thiers, il fut appelé à des fonctions d'enseignement et il eut la chance d'être affecté pendant 2 ans à la faculté d'Alexandrie. Il était chargé notamment du cours d'ethnologie du monde arabe et il devait très tôt prendre connaissance des travaux de Claude Lévi-Strauss et s'attacher, quant à lui, à repérer les interférences entre l'islam et certaines superstitions héritées de l'ancienne Égypte, où la religion était intimement liée à la magie. Ainsi découvrait-il le thème qu'il inscrira plus tard au cœur de sa thèse de doctorat. Devenu chercheur au CNRS, il assure à 2 reprises l'intérim de Raymond Aron à la Sorbonne, tout en entretenant une relation de grande confiance avec Georges Gurvitch. Et c'est sous la présidence de ce dernier qu'il va diriger le Centre d'études sur la sociologie de la connaissance et de la vie morale. Autrement dit, 2 domaines qui inciteront par la suite Jean Cazeneuve à engager des recherches sur la sociologie des communications. Et c'est ainsi que l'auteur d'une thèse sur les rites et la condition humaine deviendra le premier président de la chaîne de télévision TF1. Mais ne brûlons pas les étapes. Avant de rédiger le monument que constituait la thèse de doctorat S-Lettres, encore fallait-il avoir prouvé ses talents d'ethnologue en menant des recherches de terrain. Heureux bénéficiaire d'une bourse Rockefeller, le jeune chercheur s'inscrit donc en 1955 à l'université de Harvard, où enseignaient les meilleurs spécialistes des Indiens du Nouveau-Mexique. Et il choisit d'aller étudier la tribu des Unis au Nouveau-Mexique. Il raconte que son arrivée parmi les Indiens avait été facilitée par un personnage très pittoresque, un personnage hollandais, qui était né chez les Unis, qui avait été élevé par eux et qui, paraît-il, connaissait si bien les rites que les Indiens faisaient appel à lui en cas de mémoire défaillante. C'est donc à Cibola que s'installe notre ethnologue, désireux d'observer l'une des cérémonies les plus complexes et les plus révélatrices, qui se nomme le chalaco, et se prépare de longs mois à l'avance. Les dieux dansent à Cibola. Ce poétique sous-titre de l'ouvrage d'ethnologie que Jean Cazeneuve publiera en 1957, « Les dieux dansent à Cibola », marque l'importance que les Indiens unis attachent à la danse pendant les 7 jours et 7 nuits que dure chaque cérémonie. Des cérémonies qui, telles qu'elles sont décrites dans l'ouvrage, ressemblent moins à une orgie dionysiaque. Au contraire, les unis, apprenons-nous, ont une aversion naturelle pour tous les excès. Donc c'est moins une orgie dionysiaque qu'un véritable drame religieux, un drame dominé par la venue et par le départ des dieux. Et c'est de ce séjour au Nouveau-Mexique que Jean Cazeneuve pense avoir retiré une inclination qui ne le quittera plus à l'optimisme et au bonheur. Car les unis, dit-il, sont convaincus d'une chose, c'est que les dieux sont favorables aux hommes gais et tranquilles, alors que la colère, l'envie, le pessimisme les irritent. En revanche, il constata, un peu nostalgique, que son départ ne leur avait fait aucune peine, malgré les mois passés ensemble. Il est vrai que, de son côté, il n'était pas si mécontent, après la visite d'autres parties du Nouveau-Mexique et de l'Arizona, puis des haltes dans les principales villes américaines, de regagner l'Alma Mater, où il restait à franchir le dernier échelon dans la hiérarchie des grades universitaires, celui du doctorat d'État. Après quelques déconvenues, car le doyen d'avis venait de prendre sa retraite, et le professeur auquel il lui avait conseillé de s'adresser avait eu le mauvais goût de mourir la veille de leur rendez-vous. Donc il s'adressera au philosophe helléniste Pierre-Maxime Schull, qu'il avait connu lors de sa captivité en Allemagne et qu'il retrouvera plus tard à l'Institut, ici même. Alors la rédaction de sa thèse, dont j'ai déjà évoqué le titre, « Les rites et la condition humaine », fut pour lui une forte incitation à prolonger ses observations sur cette humanité qui, dès qu'elle se sépare de l'animalité, ne se consacre pas en première urgence, s'étonne-t-il, à assurer sa survie et son progrès pour s'adapter à un environnement difficile, mais se hâte en même temps de régler ses rapports avec les puissances invisibles, avec une sorte d'au-delà. Il évoque alors une notion qui avait été élaborée en 1917 par Rudolf Otto et propose d'appeler numineux ce phénomène, cette expérience de l'inconnu, cette révélation d'autre chose, de l'ordre du surnaturel, que les peuples archaïques tantôt fuient avec terreur, tantôt, au contraire, cherche à s'approprier. Or, précisément, de ces deux tentations contraires, découle, pour Jean Cazeneuve, l'ambivalence d'une relation au surnaturel qui incite ces peuples soit à s'enfermer dans un immobilisme marqué par un système de règles et marqué surtout par le rejet de tout changement synonyme de désordre, soit tout à l'inverse, à tenter de capter les forces supérieures, aptes à dépasser la banalité quotidienne, aptes à faire surgir l'inattendu. C'est ainsi qu'en somme s'ébauchait la réflexion que Jean Cazeneuve va poursuivre dans ses ouvrages ultérieurs sur la religion et la magie au regard du sacré. Mais son retour en France ne se limita pas à soutenir enfin sa thèse. Ce fut aussi, comme il le raconte avec beaucoup d'émotion, pour ce vieil enfant de 48 ans aux tempes grises, il se décrit ainsi lui-même, un tournant majeur. Son retour fut un tournant majeur avec, dit-il, l'irruption rayonnante d'une blonde qui alliait la beauté à l'intelligence, ce sont ses propres termes, pour désigner celle qui deviendra son épouse, et dont je salue la présence rayonnante, en effet, parmi nous. On conçoit que Jean Cazeneuve ait été peu désireux de repartir en démission lointaine et d'abandonner sa famille, qui comptera bientôt 3 enfants. Il élabore donc un projet de recherche sur les problèmes de la télévision. Ces problèmes étaient encore peu étudiés en France, or ils s'inscrivaient parfaitement bien dans le vaste champ d'études de la connaissance et de la vie morale dont il était chargé au sein du groupe fondé par Gurwitch. Ils étaient aussi l'occasion d'observer l'influence que pouvait exercer la télévision sur l'évolution de la culture populaire et des mœurs, donc l'occasion de poursuivre son interrogation inlassable sur la condition humaine. À la mort de son ami Gurwitch, la vie va s'accélérer pour lui, la vie professionnelle, avec son élection à la chaire de sociologie de la Sorbonne. Ici encore, les dates sont importantes à rappeler, car cette élection a eut lieu en 1966, peu avant le fameux mois de mai 1968, dont il gardera un souvenir qu'il dit affligeant, mais surtout cocasse. En tout cas, dès la rentrée, il reprit comme à l'ordinaire ses cours de sociologie, qu'il poursuivra encore plusieurs années, notamment sur les communications de masse. Élu en 1973 à l'Académie des sciences morales et politiques, il succède alors à Maurice Reclus pour occuper le fauteuil qui porte le numéro 1 dans la section morale et sociologie, fauteuil où avait notamment pris place, bien avant lui, Alexis de Tocqueville. Son épée d'académicien évoque avec beaucoup d'élégance, j'ai eu l'occasion de la voir de près, l'originalité de sa carrière. Elle associe à la chouette d'Athéna, totem de la Cagne, divers emblèmes stylisés, des emblèmes qui sont aussi différents qu'un émetteur de télévision d'un côté, et de l'autre deux étranges figures, l'une royalement coiffée, l'autre grotesque et grimaçante, comme le rappela Maurice Druon en lui remettant l'épée, eh bien ces figures évoquent le rituel de Chalaco de ces chers Indiens unis. Ayant passé des années à montrer que les rites correspondent à quelques besoins secrets de la nature humaine, ils sont dans le temps ce que la demeure est dans l'espace, écrivait-il dans sa thèse. Il appréciait en connaisseur les traditions de cette institution, de notre institution, où cohabitent, au terme de parcours fort différents, comme notre président l'a encore rappelé tout à l'heure, des hommes et quelques femmes aux opinions les plus diverses et parfois les plus contrastées. Mais voici qu'en 1974, un nouveau tournant l'amène à devenir patron de la chaîne de télévision qui venait d'être créée avec d'autres à la suite du rapport de Marsolon, marquant la fin de l'office de radio-télévision, la fin de l'ORTF. Chargé de chaîne, c'est ainsi que Cazeneuve évoque, avec cet humour dont il ne se départit jamais, sa nomination comme président de TF1. La nomination d'un professeur à la Sorbonne à un poste aussi exposé aurait pu surprendre. S'il n'était l'auteur d'une sociologie de la radio-télévision, suivie de nombreux articles, repris en 1970 sous la forme d'un ouvrage sur les pouvoirs de la télévision. De plus, ce sociologue avait une expérience des pratiques, non seulement pour avoir été chargé dans les années 60 de la chronique Sciences humaines sur les ondes de France Culture, mais plus directement encore, comme membre du conseil de l'ORTF, où il avait notamment observé l'impact médiatique de la fameuse sortie de Maurice Clavel. Vous vous souvenez, messieurs les censeurs, bonsoir. Et puis, comme président du comité des programmes de la télévision. Alors, comment aurais-je refusé, écrira-t-il plus tard, cette occasion de passer de la théorie à la pratique et de changer presque complètement d'horizon professionnel, en effet. C'était une occasion aussi, peut-être, de mettre en œuvre sa vision positive du monde. Je suis frappée par le titre de l'entretien qu'il donne au Figaro peu après sa nomination, « Gaieté et culture ». Même s'il a aussi la brutale révélation, par un coup de téléphone de l'ambassadeur d'Haïti, du rôle que pouvait jouer la télévision dans le jeu diplomatique. Jean Cazeneuve souligne cependant que pendant les 3 années de son mandat, période sans élection présidentielle ni législative, les crises entre la télévision et les responsables politiques furent peu nombreuses. Mais ce constat ne le dispense pas de s'interroger sur le devoir d'objectivité. Une question qui semblait d'autant plus redoutable qu'il avait décidé de recourir à la formule du présentateur unique et que l'apparition des sondages et autres indices d'écoute renforçait la difficulté à définir une politique des programmes qui soit compatible avec une certaine idée du service public, pour reprendre ses propres termes. Il rappelle dans l'un de ses livres comment son concurrent d'Antenne 2, avait réussi à capter l'auditoire du journal télévisé en programmant dans le quart d'heure précédent du journal le tour de passe-passe d'un prestidigitateur qui tenait le public en haleine car, très habilement, il ne révélait son secret que le lendemain. Alors, désarroi des journalistes, baisse des recettes de publicité, la désaffection du public appelait une riposte. Et la riposte vint sous la forme de l'émission « Alors raconte », composée d'histoires drôles et de traits d'humour. Le succès immédiat démontra, selon lui, la justesse de la formule d'Arthur Comte, invitant, quand il présidait l'ORTF, à libérer les forces de la joie. Une façon de souligner le prix que les téléspectateurs, tout comme les Indiens unis, attachent à la gaieté. Les relations avec les télévisions étrangères étaient également importantes, qu'il s'agisse de réaliser des coproductions, des échanges, ventes ou achats de programmes, ou de signer des accords de coopération. Aussi, le président de TF1 devait-il voyager d'un bout à l'autre de l'Europe, ainsi qu'en Afrique du Nord, et même dans l'Iran du Shah, où il aurait fallu être aveugle, écrit-il, pour ne pas sentir que ce pays était à la veille d'une révolution. Au passage, il se rendra aussi au Japon. Et là, il est heureux, semble-t-il, de constater, comparant le laxisme de la télévision japonaise à la pruderie des programmes soviétiques, que la France se trouvait en somme dans le juste milieu. Ce qui confirmait sa conviction que si elle doit vivre avec son temps, une grande chaîne publique n'a pas nécessairement pour vocation de précéder ou d'accélérer certaines évolutions. Mais l'expérience touchait à sa fin. Jean Cazeneuve, n'ayant pas souhaité que son mandat fût renouvelé, va réaliser enfin, entre 1978 et 1980, le rêve. Le rêve qu'il avait formé lors de son entrée à l'école normale, d'une carrière dans la diplomatie. En effet, une ambassade auprès du Conseil de l'Europe à Strasbourg lui fut proposée, qu'il accepta d'autant plus volontiers qu'elle lui permettait de ne pas quitter son pays et de privilégier les questions culturelles et sociales correspondant à sa vocation humaniste. Il y voyait aussi l'intérêt, étant affecté à une organisation internationale, de pratiquer des relations non pas bilatérales, mais multilatérales. Il percevait bien, comme l'expérience l'a amplement confirmé, notamment à l'Organisation mondiale du commerce, combien le multilatéralisme est difficile et pourtant nécessaire. Nécessaire face au risque d'hégémonie de telle ou telle grande puissance. Et l'Europe, de ce point de vue, était et est encore un véritable laboratoire. À l'époque, le Conseil de l'Europe regroupait déjà 20 États, donc il s'étendait au-delà de la communauté européenne et il englobait des États comme Malte, Chypre ou la Turquie. Bataille en ferme pour trouver des moyens d'accord entre ces deux derniers, Jean Cazeneuve rappelle, dans Les hasards d'une vie, que c'est à cette époque que la délégation française put obtenir, malgré un antagonisme séculaire entre les deux pays, leur maintien dans le concert européen. Sans pouvoir encore mesurer tout l'impact que prendront par la suite la Convention européenne des droits de l'homme, puis la Charte sociale européenne, il pressentait déjà l'importance de ces nouveaux dispositifs. Mais il eut aussi l'occasion de côtoyer l'autre Europe, celle des communautés européennes, car le Palais de l'Europe abritait déjà le Parlement européen, tout nouvellement désigné au suffrage universel, ce qui lui valut d'y accueillir Simone Veil lorsqu'elle fut élue présidente. Mais cette expérience singulière d'universitaire devenu président de TF1 puis diplomate, Jean Cazeneuve aura à cœur de la transmettre aux générations suivantes, non seulement dans le cadre de l'École française des attachés de presse, l'EFAP, dont il présidera le Conseil de 1984 à 2002, mais encore au sein du Centre d'études diplomatiques et stratégiques qu'il contribua à créer en 1985 et qu'il présida jusqu'en 2000, remplacé alors par notre confrère André Damien. Devenu président d'honneur, il resta très présent, comme en témoigne avec émotion l'administrateur général Pascal Chéniaud, qui évoque notamment son rôle dans le choix des programmes et dans la mise en place d'antennes dans des pays comme l'Italie, le Maroc ou le Sénégal. À son retour de Strasbourg, Jean Cazeneuve sera aussi nommé vice-président du Haut Comité de la langue française, alors présidé par le Premier ministre. Un organisme prometteur dont il regrettera la disparition précoce. Fidèle à lui-même, il ne cède pourtant ni au pessimisme, ni à la nostalgie, mais à cet optimisme bien tempéré qui lui inspirant d'un tempestif fou rire lui avait valu en d'autres temps les foudres de son professeur de philosophie, raconte-t-il. Un optimisme qui ne semble avoir jamais empêché, bien au contraire, de poursuivre dans sa vie, mais aussi dans son œuvre, cette quête imaginée lors de son premier projet de thèse, dont le doyen David l'avait dissuadé, la thèse qu'il aurait voulu faire, qu'y a-t-il d'immuable dans la nature humaine ? Pour évoquer l'œuvre de Jean Cazeneuve, comme le soulignait déjà Francis Ball lors de la cérémonie de remise de son épée d'académicien, il faudrait être à la fois philosophe, sociologue, ethnologue. Il serait donc bien présomptueux de prétendre rendre compte ici des quelques 50 ouvrages publiés ou dirigés par lui et traduits dans une douzaine de langues, traduits en Europe mais aussi en Iran et jusqu'au Japon. Ces ouvrages vont de questions hautement philosophiques concernant la morale et la religion, l'avenir de la morale, ou encore « Et si plus rien n'était sacré ?» à des thèmes apparemment plus ludiques, du calembour au mot d'esprit, tout en comportant de nombreux et savants travaux d'ethnologie et de sociologie, ainsi que plusieurs études sur les communications. En revanche, malgré la diversité de son parcours, ou peut-être précisément grâce à une diversité qui ne renie jamais l'essentiel, mais le nourrit d'expériences multiples, l'esprit qui anime l'auteur m'apparaît d'une étonnante unité. L'essentiel s'exprime pour lui, me semble-t-il, à travers la redoutable question qui deviendra le titre de l'un de ses livres, La raison d'être. Après de longues pages décrivant avec une minutie étonnante les sociétés d'insectes, de fourmis et d'abeilles, Jean Cazeneuve s'interroge sur le passage de l'animalité à l'humanité. Ne sommes-nous pas de super-insectes dupés par une illusoire liberté? La question le conduit, pour confronter l'évolution biologique à l'évolution culturelle, on pourrait dire pour confronter l'hominisation à l'humanisation, à étudier les théories matérialistes nées des dernières découvertes de la biologie, soulignant notamment l'importance des travaux de Jacques Monod. Il marque aussi les limites d'une construction qui, en définitive, n'apporte, selon lui, aucun élément de décision en ce qui concerne le passage de l'inorganique à l'organique. Fasciné par sa lecture du célèbre ouvrage « Le hasard et la nécessité », il conclut, en effet, que la belle construction matérialiste qui prétend faire sortir les êtres vivants actuels d'un atome originel par le seul mécanisme des accidents heureux et des lois naturelles n'aboutit, ce sont ses termes, qu'à une accumulation d'invraisemblances et déplace les problèmes métaphysiques sans contribuer à les résoudre. Sans dogmatisme, car il ne prétend pas trancher entre matérialisme et spiritualisme, Jean Cazeneuve refuse, quant à lui, de faire du néant l'ultime vocation de la pensée. Sa vision, je dirais ouverte et synthétique du monde, sera magistralement résumée par le titre du traité publié sous sa direction en 1984, « Histoire des dieux, des sociétés et des hommes ». Car tel est peut-être le fil qui relie tant de domaines apparemment disparates, où émerge tout à la fois le rire, le rire et les variations sur la joie et le bonheur, les hommes donc, le sacré, les dieux, enfin ces techniques de communication qu'il connaissait si bien pour les avoir à la fois étudiées en sociologue et pratiquées comme patron d'une chaîne de télévision, les sociétés donc. Le rire, chacun sait, depuis Aristote, repris notamment par Rabelais, que le rire est le propre de l'homme. Et les travaux de Bergson ont savamment analysé ces principales manifestations du comique des formes et des mouvements au comique de caractère, en passant par le comique de situation. Le rire évoque-t-il pour autant ce qui serait immuable dans la nature humaine? Suffisamment sans doute pour justifier ce mot attribué à Mozart, je me méfie de ceux qui ne rient pas, ce ne sont pas des gens sérieux. En revanche, tout le monde ne rit pas des mêmes situations. Citant les travaux de Lévi-Brulle sur le rire chez les primitifs, Jean Cazeneuve souligne la fonction sociale du rire. Le rire est fonction des personnes, des groupes, des situations sociales. Le rire est un indicateur social. Ajoutant avec beaucoup de finesse, que le rire peut, selon les cas, avoir des effets de rejet ou d'inclusion à l'égard d'une collectivité. Combien surprenant cet ouvrage, Le mot pour rire, qui commence par des calembours et des contrepétries des plus classiques aux plus polissonnes, voire scabreuses, comme la comparaison faite par Cocteau entre le rire et le sexe qui ne dépendent ni l'un ni l'autre de la volonté, et qui se termine, ce même livre, par une méditation sur la condition humaine. On en arrive ainsi, écrit-il, à rattacher la fonction du rire à la condition humaine, que l'évolution des êtres vivants conduit à situer dans une tension entre l'initiative et la règle, entre la responsabilité et la programmation, entre l'invention et la répétition, entre la fantaisie et la logique. Il y reviendra dans Les roses de la vie, évoquant alors la joie, cette flamme précaire, écrit-il, que tant de vents contraires cherchent à éteindre, et la gaieté, qui en est une expression visible. Il les évoque comme données premières, qu'il entend distinguer du bonheur. Tandis que je parle du bonheur comme une chose qui m'appartient, la joie est plutôt une chose qui me possède. Rappelons le classement des tribus primitives qui distinguent, comme il l'avait fait lui-même à propos des unis, les sociétés apolliniennes fondées sur un bonheur fait de stabilité, d'harmonie et de paix, des sociétés dionysiaques caractérisées par l'esprit guerrier, l'appétit de pouvoir et de compétition, plus proche de la joie ou même de l'ivresse que du bonheur. Il suggère que la distinction pourrait s'appliquer aux individus autant qu'aux sociétés, et de lancer, mi-souriant, mi-sérieux, pourquoi n'y aurait-il pas des examens, des diplômes, un doctorat, est-ce bonheur? En somme, dans ce jeu de cache-cache avec soi-même qu'est toute vie humaine, le message est clair. Cultivons le bonheur et privilégions le rire, car il préserve une part de liberté en nous mettant à distance de notre nature purement biologique. En ce sens, le rire n'est pas si loin qu'on pourrait le penser du sacré. Le sacré, Jean Cazeneuve l'avait abordé dès l'époque de son séjour chez les Indiens Unis, puis théorisé dans sa thèse. Savant ouvrage qui le conduit des notions d'impureté puis de puissance magique aux diverses formes de consécration et de pratiques religieuses. Et ce thème majeur court tout au long de son œuvre. En 1991, il y consacrera tout un livre, Et si plus rien n'était sacré, abordant la difficulté avec son humour habituel, définir le sacré, c'est un sacré problème. Un problème en effet, car si le besoin du sacré lui semble plus présent que jamais dans nos sociétés, même quand il apparaît camouflé ou déplacé, la réponse à ce besoin est d'autant plus ambiguë que le sacré oscille entre deux pôles en apparence contraires. D'un côté la magie, pôle inquiétant, fait de transgression, de l'autre la règle, et le respect de l'ordre. Alors Jean Cazeneuve évoque les efforts de Durkheim pour dépasser la contradiction, en fondant la religion sur la séparation entre le sacré et le profane, décidée par le groupe social pour valoriser sa propre existence collective. Pourtant, Jean Cazeneuve ne se satisfait pas de cette conception qui réduit, dit-il, le sacré et la religion est un phénomène social. La religion serait l'ensemble des croyances et pratiques par lesquelles le groupe social se pose comme supérieur à ses membres et s'adore en quelque sorte lui-même. Et il fait observer que la séparation semble contredite par l'existence de rites religieux positifs, ceux qui, d'une certaine manière, établissent précisément un contact, voire une communion entre le sacré et le profane. Alors mieux vaut, selon lui, considérer que le sacré n'est pas l'antithèse du profane, car il a une toute autre dimension. Ce qui l'amène à reprendre le terme inhabituel déjà utilisé dans sa thèse de « numineux », Car en désignant ainsi l'ensemble des phénomènes dits surnaturels parce qu'ils dépassent la simple expérience, eh bien ce terme permet de réserver le mot sacré pour le niveau supérieur, qui est celui de la transcendance. Le sacré, pour lui, c'est ce qui échappe aux règles, mais en même temps, ce qui fonde les règles. Il est la relation entre la condition humaine et ce qui la dépasse. Il est sublimation plus que contradiction. Et il écrit en conclusion, « Si plus rien n'était sacré, alors viendrait le règne des faux dieux et des petits maîtres qui se feraient sacrés dans des spectacles cependant que les gourous se nourriraient de nos nostalgies et que les marchands de paradis artificiels proposeraient d'autres moyens d'évasion. » Cette crainte, il l'évoquera à nouveau dans l'avenir de la morale. Une morale d'autant plus respectable et respectée, écrit-il, que ses commandements sont considérés comme sacrés, c'est-à-dire comme transcendants. D'où la question redoutable, celle qu'il avait déjà esquissée dans son histoire des dieux, des sociétés et des hommes, au chapitre des aspirations qui peuvent transcender la réalité, à propos de la Déclaration universelle des droits de l'homme, la question de l'alliance du sacré et de la laïcité. Il n'est pas impossible, selon lui, que dans les civilisations modernes où l'État s'est voulu indépendant de la religion, et a fortiori dans la communauté internationale, le sacré, officiellement refoulé, continue de caractériser inconsciemment certains aspects de la vie sociale. En ce domaine, le rôle des techniques de communication n'est sans doute pas neutre, et j'en viens à son troisième domaine de prédilection. La communication de masse, par des moyens que Jean Cazeneuve se résigne avec regret à nommer masse-média pour éviter les périphrases, détermine en effet des mutations sociales majeures qu'il analyse notamment dans les pouvoirs de la télévision. Inscrivant ses travaux dans le prolongement de précurseurs comme David Rismond, il emprunte plus particulièrement à ce dernier l'expression imagée du gyroscope au radar. Pour caractériser cet homme d'aujourd'hui, désormais extra-déterminé car sensible aux influences extérieures, étant en relation avec un cercle de personnes toujours plus large. Mais c'est surtout par rapport à McLuhan et son célèbre village global qu'il situe sa propre réflexion. Même s'il ne reprend pas à son compte tous les aspects développés dans la galaxie Gutenberg, il retient que le nouveau tribalisme, désormais situé à l'échelle globale, implique ce paradoxe du retour à une société fermée, mais fermée à l'échelle de toute la planète. Et quand il évoque la société de l'ubiquité, il semble déjà pressentir, au-delà de la télévision, le rôle qui deviendra celui d'Internet, et dont témoigne le succès éclatant de la radio Canal Académie, qui a été lancée par notre confrère Jean Cluzel. Soulignant le lien entre la communication et la diffusion, Jean Cazeneuve reprend la distinction de McLuhan entre le forum, l'écrit et les médias audiovisuels actuels, constatant lui aussi l'immédiateté de ces derniers par rapport au texte écrit. L'écrit demande au lecteur un travail de décodage, alors que l'image ou le son, même si l'émission est différée, serait reçue directement sans médiation. Mais il va nuancer l'analyse. S'il y a malgré tout médiation, écrit-il, c'est que ni la radio ni la télévision ne permettent un contact direct avec la réalité. L'immédiateté n'est que relative, et le médium est, qu'on le veuille ou non, un filtre, car il impose un point de vue et ne donne, écrit-il, que l'illusion du réel. Cela posé, il insiste d'une façon qui me semble très juste sur le rôle beaucoup plus complexe qu'on ne le pense parfois de la télévision. Complexe car elle porte en elle deux processus, à la fois contradictoires et complémentaires, l'un d'identification à un modèle, l'autre de projection qui nous protégerait des pulsions et des tentations d'ordinaire refoulées en les réalisant en quelque sorte par procuration, le fameux effet cathartique si controversé. S'intéressant aux effets des masses médias sur l'opinion publique, il observe, sans dire si son observation a été confortée par son expérience à TF1, il observe une alternance entre la phase du conformisme immobiliste et celle du conformisme contestataire. Et il formule l'espoir qu'un équilibre se fera à plus long terme. Faisant observer que les médias n'agissent que dans la mesure où le récepteur est réellement réceptif, il se détache, comme le souligne Bernard Vallade dans l'hommage publié par l'année sociologique, d'une représentation mécaniste pour y substituer un schéma explicatif fondé davantage sur l'interaction ou les interactions. Si Jean Cazeneuve laisse finalement ouverte la question de l'usage possible des masses médias, notamment pour créer des courants d'opinion, il suggère pourtant, ce qui semble confirmé par les pratiques actuelles, que les hommes apprendront à s'en servir comme ils ont appris, dit-il, à diriger des véhicules se déplaçant à grande vitesse. Le risque des faux dieux, des petits maîtres et des gourous n'est pas à exclure, car en somme, de Cibola au village global, ou pour reprendre le sous-titre de son autobiographie, des primitifs aux téléspectateurs, l'écart n'est pas si grand. Le rite primitif associe au carcan du tabou les audaces de la magie, tandis que la télévision, la boîte de sorciers installée dans chaque foyer, disait Maurice Druon, semble plonger le spectateur dans la réalité, mais transforme la réalité en spectacle et la mêle à l'imaginaire. C'est pourquoi l'appel de Jean Cazeneuve à comprendre le présent par l'avenir me semble plus pertinent que jamais. Certes, la prospection des avenirs possibles ne se confond pas avec la prédiction, du moins peut-elle contribuer à éclairer les choix du présent. Elle participe en tout cas à la recherche de cette raison d'être qu'il avait placée au cœur de ses actions et de ses écrits, une telle recherche étant peut-être en définitive cela même qui reste immuable dans la nature humaine. Eh bien, ni dérangeant, ni décapant, tel qu'il se décrit lui-même, rappelant que les années 68-70 avaient suscité de sa part une réaction plutôt de défense et de rejet, Jean Cazeneuve n'a rien eu d'un révolté. Il n'ignorait ni les malheurs du temps, ni les petites misères de la vie quotidienne, mais son choix n'était pas de les dénoncer. Il préférait écrire sur la joie, le bonheur, l'amour de la vie, le rire. Une façon bien à lui de donner des encouragements, de donner des motifs d'espérance et de montrer, ce sont ses propres termes, que l'optimisme n'est pas toujours stupide. Alors il me reste à formuler le vœu, en lointain écho au choral célèbre de Jean-Sébastien Bach, que sa joie demeure parmi nous. Merci.
Canal Académie vous a proposé d'écouter Mireille Delmas-Marty lire sa notice sur les travaux et la vie de Jean Cazeneuve en grande salle des séances devant ses confrères et de nombreux invités. Mireille Delmas-Marty a été élue le 27 mai 2007 à l'Académie des sciences morales et politiques dans la section morale et sociologie au fauteuil occupé précédemment par Jean Cazeneuve.